messieurs, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Assemblée nationale pour parler d'économie. Je vais commencer par faire un petit tour en arrière. Le 26 septembre 1786, les ministres des Affaires étrangères de Georges III et de Louis XVI signaient un accord commercial, un accord de libre-échange entre la France et la Grande-Bretagne qui fit date. Les débuts de la révolution industrielle pure alors se diffusaient plus aisément entre nos deux pays en favorisant la mécanisation, la division du travail, la rationalisation des unités de production, la production de masse s'annonçait. Les élites, les économistes, les personnalités politiques au cœur des Lumières se félicitaient de ces sages et responsables dispositions qui donnèrent un coup d'innovation et de modernité à nos économies. Ils incitèrent les structures corporatistes existantes à se réformer pour faire face aux nouveaux impératifs de la compétitivité de cette première mondialisation naissante. Quelques mois plus tard, le 27 avril 1789, les ouvriers du faubourg Saint-Antoine prirent d'assaut violemment la fabrique de papier peint Réveillon. Les machines anglaises condamnaient au chômage ces premiers nostalgiques du Made in France. Les mêmes prirent la Bastille 3 mois plus tard. Les négociations actuelles entre l'Europe et les États-Unis relatives à l'accord de libre-échange pour un grand marché transatlantique m'évoquent ce moment de notre histoire. Qui avait tort ? Les élites économistes voulaient moderniser leur pays, bien sûr, ils avaient raison. Les ouvriers, en détruisant les machines, avaient-ils tort alors ? Mais la souffrance n'est-elle pas un absolu ? Et la démocratie moderne, les objectifs d'égalité, de liberté, ne sont-ils pas nés dans les rues de Paris en 1789 pour conquérir ensuite le monde ? Il n'y a pas de vérité dans cette histoire. Personne n'avait tort. Et je ne suis pas normand. La conciliation de la croissance future et de la souffrance présente, objet de nos veilles, est chose compliquée. Il faut consulter. Il faut réfléchir, il faut, c'est vrai, ensuite décider. C'est pourquoi nous avions eu le plaisir, le 21 février 2013, en partenariat avec GECO, d'organiser la première matinée de l'économie à l'Hôtel de Lassay autour de deux tables rondes dont les sujets étaient quel avenir et quel levier pour notre industrie et comment construire la croissance en France. Les députés étaient confrontés à des économistes, des experts et des acteurs économiques pour y voir plus clair sur ces questions fondamentales. Le succès fut au rendez-vous avec 400 personnes qui ont honoré de leur présence ce grand moment d'échange. Aujourd'hui, 15 mai, nous organisons donc une deuxième édition. Après le modèle de croissance, voici le modèle social. En effet, l'âpreté de la mondialisation, la cruauté des concurrences pures et parfaites, les nécessités d'une réduction drastique de nos endettements publics conduisent à poser avec fermeté les limites d'un périmètre que nous voulons voir demeurer à l'action publique. C'est en d'autres termes nous interroger sur les moyens et les méthodes pour sauver et pérenniser notre modèle social. D'où les sujets des tables rondes de ce deuxième événement. La première sur réduire la dépense publique sans freiner la croissance. Une deuxième sur quel avenir pour l'État-providence. Les invités sont à la hauteur de l'importance de ces questions et ne tremblent pas, j'en suis sûr, devant la difficulté de leur tâche. Je salue ici Patrick Artus, qu'on ne présente plus, et Selma Mahfouz, commissaire adjoint à la stratégie et à la prospective, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, Yann Algan, professeur d'économie à Sciences Po, François Bourguignon, directeur d'études à l'EHESS, et Raymond Soubi, président de société. Nous avons tenu à ce que des députés de tous les bancs confrontent leurs certitudes, leurs doutes et leurs expériences à de telles personnalités. Ce sera le rôle de mes collègues Valérie Rabault, toute nouvelle rapporteure générale du budget à l'Assemblée nationale, et Henri Guénaud, à qui je souhaite bonne chance à tous les deux. Et cher Henri, ici, tu ne seras jamais exclu. Un grand merci enfin aux journalistes qui ont bien voulu prendre de leur précieux temps pour modérer, animer et orienter les débats qui promettent d'être vifs et passionnés. Cette manifestation est très importante pour l'engagement de la représentation nationale dans le compromis que l'actuelle majorité cherche à trouver entre croissance et dépenses, entre sauvetage du modèle social et désendettement. C'est le défi de cette majorité actuelle, mais c'est le défi de tout le monde, de nos grands pays engagés dans cette bataille du nouveau monde. Elle est importante car elle révèle un dialogue nécessaire pour trouver des solutions. Elle nous engage à nous poser la question du sauvetage de notre modèle social. Et enfin, elle nous incite à suspendre quelques instants le fil du temps pour que l'on réfléchisse, que l'on se demande si un discours social est encore possible. Et vous imaginez que la réponse est oui, que ce oui, c'est vers l'Europe qu'il regarde et c'est l'Europe qu'il faut changer. La nécessité du dialogue tout d'abord. On a dit souvent que les personnalités politiques n'écoutaient pas assez les économistes. On a dit, et on le dit encore malgré l'éclatant démenti des faits, que les femmes et les hommes politiques, de droite comme de gauche, et surtout du camp progressiste, manquaient de formation économique, n'étaient pas assez contraints par l'évidence du réel que seule l'étude de l'économie permettait. Bien sûr, vous imaginez, compte tenu de mon pédigré, je crois cette impression fausse. Je la crois fausse car je suis convaincu que les hommes et les femmes politiques non seulement font beaucoup d'économies, étudient sérieusement et rigoureusement l'économie, mais je crois qu'ils aiment l'économie. Je la crois fausse parce que je n'oppose jamais le réel à l'idéal. Aimer les idéaux, c'est aimer le réel. Aimer les idéaux, ce n'est pas ignorer les mécanismes de fonctionnement d'une société, ignorer l'ingénierie productive d'une économie, ignorer les rapports de force, les conséquences des phénomènes de rareté, les contraintes qui pèsent sur les décisions politiques. Pas du tout. Aimer les idéaux, c'est prendre une société et ne pas se satisfaire de voir des mécanismes produire des souffrances et des injustices. L'économie s'étudie, beaucoup, longtemps. Mais, et c'est cela qui fonde notre action, nos veilles et nos sueurs, l'économie se corrige, l'économie s'améliore. La politique prime et primera toujours, car la politique organise les méthodes de choix collectifs, puis les applique. Elle structure le champ des possibles et change la vie. Tout cela pour dire quoi ? Tout cela pour dire que l'économie sans la politique opprime, pour dire que la politique sans l'économie égare, que seuls les rapports entre économie et politique peuvent éclairer un chemin et réunir les conditions d'un choix apaisé et informé. C'est pourquoi je me réjouis de vous voir ici, tous rassemblés, déjà très nombreux, alors que nous venons de commencer ces travaux. Sauver notre modèle social, c'est en effet l'objectif de la politique économique du gouvernement. Sauver notre modèle social, c'est un souhait, c'est une nécessité, c'est une urgence. Pour paraphraser le général de Gaulle, on se fait tous une certaine idée de la France. Franchement, les yeux dans les yeux. Voyez-vous cette certaine idée compatible avec le démantèlement de notre modèle social ? Croyez-vous que les facteurs de résistance à la crise que l'économie française révèle depuis 2008 ne sont pas directement liés à notre modèle social. Les entreprises internationales qui s'installent en France cherchent des transports de qualité et accessibles, des écoles pour leurs employés, une structure de système de santé enviable, des cinémas, des théâtres, une vie culturelle. Elles associent la France à quelques idées simples et pour les résidents. Qu'auraient été les conséquences de la crise en l'absence de prestations sociales, des aides au logement, des aides à la construction, des assurances chômage? Comment aurait évolué la cohésion sociale si l'État ne s'occupait pas de préserver un jeune ou un senior qui tombe au chômage, de la faim, du froid et de l'isolement? Qu'aurait concrètement été la réaction de l'économie sans les aides aux entreprises, les réductions de cotisations pour relancer l'activité? Je sais, une frange de plus en plus importante des acteurs politiques et économiques modernes ont une tendance, aussi facile que paresseuse, à confondre souffrance et assistance. Après 30 ans de réflexion, d'observation, de dialogue avec les forces économiques sur ce sujet, je vous assure que l'ingénierie économique d'incitation de retour à l'activité existe et que si l'État ne s'occupe pas de quelqu'un qui ne peut plus manger, qui ne peut plus se chauffer, qui ne peut pas se soigner, qui ne peut plus tisser de lien avec ses semblables, alors c'est l'État qui n'est pas responsable et c'est nous tous qui serions condamnables. Un homme qui a faim n'est pas un assisté ni un condamné, ni une case économique, c'est un homme qui a faim, et c'est notre problème. Le débat de ce matin permettra, j'en suis sûr, d'admirer le crépuscule de certaines idoles qui, depuis trop longtemps, entravent la créativité de notre pays. Non, et permettez-moi de faire référence aussi au camp politique auquel j'appartiens, non, la gauche n'a plus de problème depuis longtemps avec la compétitivité. C'est ce que j'ai toujours dit aux chefs d'entreprise, quel que soit le poste que j'ai eu l'occasion d'occuper, notamment lorsque j'étais en responsabilité au niveau d'une grande collectivité locale. Je leur disais, votre argent m'intéresse. Plus vous gagnez d'argent, plus vos employés travailleront dans de bonnes conditions, plus la croissance irriguera le pays. Il y a une loi d'airain dans l'histoire de l'économie mondiale. Les services publics sont d'autant plus de qualité que les entreprises sont florissantes. Avez-vous déjà vu de belles écoles, des hôpitaux ultramodernes dans des friches économiques et désindustrialisées? Bien sûr que non. Mais attention, notre économie doit aussi se protéger des faucons ultralibéraux qui utilisent ce discours non pas pour créer du souffle et de la souplesse pour l'action entrepreneuriale, mais pour externaliser l'assistance et faire en sorte que les puissances de la rente récupèrent les actifs publics. Les mêmes n'ont également de cesse de ne voir le salut de la régularisation du capitalisme actionnarial que dans ce qu'ils appellent une régulation du rapport salarial aux nécessités de la productivité, c'est-à-dire la flexibilité managériale, prélude à l'essor que l'on connaît de la souffrance au travail. Peut-on sauver le discours social? Oui, nous devons sauver le discours social. À défaut de cette entreprise de salut social, la désespérance gagnerait nos concitoyens. Pour combattre les faucons que je viens de mentionner, plusieurs pistes me semblent exploitables. La fin de l'obsession de certains chiffres insincères, comme le taux de prélèvement obligatoire. Le taux de prélèvement obligatoire doit cesser d'être l'épouvantail des économistes. Un exemple, les dépenses de santé s'élèvent à 12% du PIB en France et à plus de 17% aux États-Unis. Les Américains affichent peut-être un taux de prélèvement obligatoire plus bas dans les comparaisons internationales, mais dans la réalité, payent beaucoup plus de dépenses obligatoires en matière de santé. Si vous payez une mutuelle privée dans un autre pays trois fois ce que vous payez en France par la cotisation sociale, le taux de prélèvement obligatoire plus bas est une imposture. Stigmatiser l'impôt n'est pas économiquement responsable. A-t-on encore le droit d'espérer en France ? Oui, plus que jamais. Pour revenir au début de mon propos, le droit d'espérer en France passera par le droit de changer l'Europe. Changer l'Europe pour que la politique économique européenne ne soit pas un poids, mais un atout pour les conditions d'existence du peuple européen. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, tout le monde le sait. Les cartes sont pourtant rebattues. Les choses changent. Lisons les derniers rapports du FMI, Taxing Times en particulier, du 10 octobre 2013. Lisons son rapport budgétaire semestriel de ce 9 avril. L'austérité thatchérienne, c'est fini. L'obsession de l'inflation, du matraquage fiscal, du recul des services publics, c'est fini, même à Washington. Changer l'Europe pour sauver l'euro, pour le rendre irréversible, l'abandonner ne résoudrait rien et renchérirait soudainement nos importations et nos produits énergétiques, et je ne vous parle pas de ce que représenterait notre dette. Changer l'Europe pour disposer d'une commission forte et résolue, moderne et populaire, pour qu'elle puisse, dans cette force et dans cette popularité, la légitimité de s'engager dans des négociations commerciales internationales conformes à nos intérêts économiques. C'est le cas pour le traité de libre-échange transatlantique que j'ai évoqué au début de mon propos, auquel il est indispensable d'adjoindre l'exclusion des services audiovisuels et culturels, la préservation des préférences collectives et celle de la capacité de nos États à réguler. Changer l'Europe pour construire des cohérences fiscales qui atténueraient ce dumping absurde qui incite à s'engager dans une guerre civile et économique européenne. Le dumping fiscal est à l'Europe ce que l'absinthe est à la poésie. Elle semble stimuler, mais à la fin, le poète meurt et l'Europe meurt. Changer l'Europe, pour conclure, enfin un pacte d'investissement qui nous manque tant. Une Europe détachée de ses tristes obsessions inflationnistes proches de la production, proche des producteurs, en un mot, proche de son peuple. Ces changements, ces modernisations, ces avancées vers la réalité de demain, nos échanges, vos contributions, vos intelligences y seront pour beaucoup et permettront, j'en suis sûr, de renforcer individuellement et collectivement notre intelligence. Merci et bonne journée à vous tous.
Ah, bonjour à tous, je suis Pascal Lemerre, le responsable des journées de l'économie et on a monté avec le cabinet du président de l'Assemblée nationale pour la deuxième édition cette matinale et je suis très heureux qu'on ait pu le faire ici dans ces lieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'on commence par la Révolution française parce que pour les économistes ce fut une période assez difficile à part, je pense, Vandermonde, qui fut le premier à avoir une chaire d'économie très brève, et ensuite, pour le pauvre Jean-Baptiste Say, ses rapports avec Bonaparte furent exécrables, puisque la deuxième édition de son traité est dédiée à l'empereur de toutes les Russies. Et c'était parti pour une période très difficile de relations entre les économistes et les politiques. Et donc, je trouve intéressant qu'aujourd'hui, on soit dans une autre situation, parce qu'il y a à la fois les journées de l'économie qui sont là, mais il y a l'Association française de sciences économiques, et les économistes se sont mobilisés. Je trouve très intéressant qu'on ait cette volonté d'établir une relation durable qui permette entre les économistes et les parlementaires de réfléchir à ces sujets, qui sont des sujets extrêmement chauds, souvent très médiatiques, et que là, on prenne le temps d'approfondir entre l'expertise des uns, l'action des autres, qui doit être conduite aussi à partir d'une réflexion, et avec les citoyens qui sont présents, et des citoyens dans toute leur diversité. Il y a là des lycéens. Moi, je suis très heureux de voir aussi les lycéens, les enseignants se mobiliser et avoir une société qui, quand même, sur ces sujets, je crois, demande à ce qu'on fasse ce travail. Si on regarde, nous, dans les journées de l'économie qui se tiennent tous les ans en novembre, il y a 9000 participants et presque un tiers de lycéens. Je pense que c'est la société très globalement qui a changé, qui demande à ce que ces réflexions se fasse en public et que ça permette de construire, à mon avis, une analyse qui permette à la démocratie de mieux fonctionner. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à la première table ronde. Vous avez un numéro de téléphone pour envoyer des SMS. Et il faut absolument envoyer des SMS parce que je sais très bien que Jean-Marc Vittori adore jouer avec sa tablette. Donc, si vous voulez créer une interaction fructueuse, il faut lui envoyer des questions. Et maintenant, je vous propose de commencer.